pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Alors comme cette édition du festival Cité Philo a pour thème « Dire et faire », eh bien, cette semaine, votre intérêt s'est porté vers les prises de parole de femmes philosophes.
Et oui, alors que la parole des femmes se libère dans l'espace public, on peut espérer qu'elle se libère aussi dans l'espace philosophique. Je voudrais dire pour ma part que dans mon parcours scolaire et universitaire, je n'ai jamais travaillé sur une seule femme philosophe, pas même les plus connues comme Simone de Beauvoir ou Hannah Arendt. Personne, rien. Pourquoi ? Question de programme, question de corpus, choix du professeur. Il y a toujours cet argument qui consiste à dire qu'on ne va pas évoquer un texte écrit par une philosophe seulement parce qu'il a été écrit par une femme. C'est, vous le savez, l'éternel débat de la discrimination positive, du quota, que l'on retrouve d'ailleurs dans les palmarès culturels, les festivals de cinéma ou la politique. Il y a aussi celui, cet argument auquel nous sommes confrontés ici, par exemple sur une émission comme Les Chemins de la Philosophie, celui des invités EES qui ne se sentent pas légitimes, ou moins en tout cas qu'un autre collègue, pour venir parler d'un sujet qu'elles connaissent cependant. Pourtant, à ces arguments, une réponse est facile. Les philosophes médiocres, eux, n'ont aucun problème, ni de légitimité, ni de présence dans l'espace scolaire ou médiatique. Autrement dit, ils n'ont aucun problème à prendre la parole.
Et vous avez une question à formuler, Géraldine, j'entends.
Alors, c'est une question toute simple. Comment prendre la parole ? Alors, ça a l'air un peu bête, dit comme ça, trop simple ou trop large. Et pourtant, la prise de parole, ce n'est pas seulement la donner ou bien vouloir l'accorder à quelqu'un. Ce n'est pas seulement faire entendre sa voix ou écouter toutes les voix. Ce n'est donc pas qu'une question de parole, c'est aussi une question de prise. C'est le fait de s'emparer, de se saisir. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire prendre la parole ? Qui la prend et à quel titre ? Eh bien, pour y répondre, j'aimerais vous évoquer la philosophe écrivaine Iris Murdoch.
Her name was Iris Murdoch.
You love words, don't you?
One doesn't have words. How does one think?
She challenged the boundaries of what was safe.
Perhaps it's time we made love.
Yes.
But only one would love her all her life.
There is only one freedom of any importance whatsoever. That of the mind.
Alors j'aurais préféré vous faire écouter la vraie voix d'Iris Murdoch, pas la bande-annonce d'un film qui lui est consacré, mais figurez-vous que la principale archive qu'on trouve d'elle en ligne est une interview de 1977 où toutes ses réponses ne font pas plus d'une vingtaine de secondes, sans cesse interrompues par le journaliste qui l'interviewe. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, Iris Murdoch, née en 1919 et morte en 1999, est d'abord connue pour ses romans qui déploient toute une littérature de l'absurde. Elle a pourtant été l'élève de Wittgenstein et la première commentatrice anglo-saxonne de Sartre avec son livre notamment Sartre, romantique rationaliste. Et elle a aussi développé toute une éthique inspirée par les antiques Aristote et Platon, une éthique portée vers l'autre et pas enfermée dans la conscience, dans l'ego de soi seul, comme elle a pu le reprocher à Sartre.
Et qu'est-ce qu'elle vous a appris du coup sur cette question de la prise de parole ?
Eh bien longtemps, Iris Murdoch a été pour moi un nom un peu énigmatique. Je croyais même que c'était le nom d'un personnage de roman policier. Quand j'ai découvert qu'elle était philosophe, les bras m'en sont tombés. Comment avait-elle pu m'échapper ? Il m'est alors apparu ce fait. La prise de parole des femmes philosophes est souvent masquée par leur présentation, par la manière dont on les présente et dont on les rend présentes. Quelle ironie, même en les rendant visibles, on obscurcit leur personne, leur nom, leurs œuvres. Iris Murdoch est ainsi présentée comme romancière ou commentatrice. Angela Davis, j'en ai parlé lundi, comme militante. Germaine de Staël comme femme de lettres. Comme si être philosophe était toujours secondaire quand on présentait pourtant des philosophes. Pourquoi ? Ce n'est pas qu'une affaire de psychologie, de confiance en soi ou de politique, d'égalité des sexes. Je pense que c'est une affaire philosophique. La présentation permet à un sujet de se constituer comme tel, capable de prendre la parole en son nom, comme auteur responsable, légitime, pensant d'une œuvre. Reste alors cette autre question. Comment se présenter en son nom propre, et pas comme femme ou homme d'ailleurs, pour être lu, écouté, enseigné ou critiqué comme n'importe quel philosophe ?
Merci beaucoup Géraldine. Colette Solaire, voulez-vous réagir ?
Eh oui, bah, la prise de parole a ses lois dans une assemblée. En général, la prise de parole a ses règles. On sait que c'est d'abord généralement un homme qui lève la main, telle profession, telle. Donc ce n'est pas totalement aléatoire, indépendamment de ce qui est déterminé par la subjectivité propre à chacun. Et c'est sûr que prendre la parole, c'est d'autant plus facile qu'on vous l'a donné d'abord. Et on la donne, en général, d'abord aux garçons. Et donc, ils la prennent d'autant plus facilement. même s'ils n'ont rien à dire, bien entendu. Ça, prendre la parole n'a rien à voir avec « est-ce qu'on a quelque chose à dire ?»
Merci beaucoup, Colette Seller. Votre chronique, Géraldine, est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.